Chapitre 10. Cinquième coalition. Prise de Vienne. Bataille d'Essling. Bataille de Wagram. Paix signée dans le palais de l'empereur d'Autriche. Divorce. Napoléon épouse Marie-Louise. Naissance du roi de Rome. Le 9 avril 1809 se déclara la cinquième coalition entre l'Angleterre, l'Autriche, l'Espagne, sourdement appuyée du mécontentement des autres peuples. Les Autrichiens, se plaignant de l'infraction de traité, passent tout à coup l'Inn à Braunau. On leur avait reproché leur lenteur, ils voulurent faire les Napoléons. Cette allure ne leur allait pas. Heureux de quitter l'Espagne, Bonaparte accourt en Bavière. Il se met à la tête des Bavarois sans attendre les Français. Tout soldat lui était bon. Il défait à Debensberg l'archiduc Louis, à Eckmühl l'archiduc Charles. Il scie en deux l'armée autrichienne. Il effectue le passage de la Salza. Il entre à Vienne. Le 21 et le 22 mai a lieu la terrible affaire d'Essling. La relation de l'archiduc Charles porte que, le premier jour, 288 pièces autrichiennes tirèrent 51 000 coups de canon, et que le lendemain, plus de 400 pièces jouèrent de part et d'autre. Le maréchal Lannes fut blessé mortellement. Bonaparte lui dit un mot, et puis l'oublia. L'attachement des hommes se refroidit aussi vite que le boulet qui les frappe. La bataille de Wagram, 14 juin 1809, résume les différents combats livrés en Allemagne. Bonaparte y déploie tout son génie. Le général César de Laville, chargé de l'aller prévenir d'un désastre qu'éprouve l'aile gauche, le trouve à l'aile droite, dirigeant l'attaque du maréchal Davout. Napoléon revient sur le champ à la gauche et répare l'échec essuyé par Masséna. Ce fut alors, au moment où l'on croyait la bataille perdue, que jugeant seul du contraire par les manœuvres de l'ennemi, il s'écria « La bataille est gagnée !» Il oppose sa volonté à la victoire hésitante. Il la ramène au feu, comme César ramenait par la barbe au combat ses vétérans étonnés. 900 bouches de bronze rugissent. La plaine et les moissons sont en flammes. De grands villages disparaissent. L'action dure 12 heures. Dans une seule charge, l'Oriston marche au trot à l'ennemi, à la tête de 100 pièces de canon. 4 jours après, on ramassait au milieu des blés des militaires qui achevaient de mourir aux rayons du soleil, sur des épis piétinés, couchés et collés par du sang. Les vers s'attachaient déjà aux plaies des cadavres avancés. Dans ma jeunesse, on s'occupait de lire les commentaires de Follard et de Guichard, de Tempelhof et de Lloyd sur les campagnes de Frédéric II. On étudiait l'ordre profond et l'ordre mince. J'ai fait manœuvrer sur ma table de sous-lieutenant bien de petits carrés de bois. La science militaire a changé, comme tout le reste, par la Révolution. Bonaparte a inventé la Grande Guerre, dont les conquêtes de la République lui avaient fourni l'idée par les masses réquisitionnaires. Il méprisa les places fortes qu'il se contenta de masquer, s'aventura dans le pays envahi et gagna tout à coups de bataille. Il ne s'occupait point de retraite. Il allait droit devant lui comme ces voies romaines qui traversent sans se détourner les précipices et les montagnes. Il portait toutes ses forces sur un point, puis ramassait au demi-cercle les corps isolés dont il avait rompu la ligne. Cette manœuvre, qui lui fut propre, était d'accord avec la furie française. Mais elle n'eût point réussi avec des soldats moins impétueux et moins agiles. Il faisait aussi, vers la fin de sa carrière, charger l'artillerie et emporter les redoutes par la cavalerie. Qu'en est-il résulté? En menant la France à la guerre, on a appris à l'Europe à marcher. Il ne s'est plus agi que de multiplier les moyens. Les masses ont équipolé les masses. Au lieu de 100 000 hommes, on en a pris 600 000. Au lieu de 100 pièces de canon, on en a traîné 500. La science ne s'est point accrue, l'échelle seulement s'est élargie. Turenne en savait autant que Bonaparte, mais il n'était pas maître absolu et ne disposait pas de 40 millions d'hommes. Tôt ou tard, il faudra rentrer dans la guerre civilisée que savait encore Moreau, guerre qui laisse les peuples en repos, tandis qu'un petit nombre de soldats font leur devoir. Il faudra en revenir à l'art des retraites, à la défense d'un pays au moyen des places fortes, aux manœuvres patientes qui ne coûtent que des heures en épargnant des hommes. Ces énormes batailles de Napoléon sont au-delà de la gloire. L'œil ne peut embrasser ces champs de carnage qui, en définitive, n'amènent aucun résultat proportionné à leur calamité. L'Europe, à moins d'événements imprévus, est pour longtemps dégoûtée de combats. Napoléon a tué la guerre, en l'exagérant. Notre guerre d'Afrique n'est qu'une école expérimentale ouverte à nos soldats. Au milieu des morts, sur le champ de bataille de Wagram, Napoléon montra l'impassibilité qui lui était propre et qui l'affectait, afin de paraître au-dessus des autres hommes. Il dit froidement, ou plutôt il répéta son mot habituel dans de telles circonstances, « Voilà une grande consommation !» Lorsqu'on lui recommandait des officiers blessés, il répondait « Ils sont absents !» Si la vertu militaire enseigne quelques vertus, elle en affaiblit plusieurs. Le soldat trop humain ne pourrait accomplir son œuvre. La vue du sang et des larmes, les souffrances, les cris de douleur, l'arrêtant à chaque pas, détruirait en lui ce qui fait les Césars. Race dont, après tout, on se passerait volontiers. Après la bataille de Wagram, un armistice est convenu à Znaïm. Les Autrichiens, quoi qu'en disent nos bulletins, s'étaient retirés en bon ordre et n'avaient pas laissé derrière eux un seul canon monté. Bonaparte, en possession de Schönbrunn, y travaillait à la paix. Le 13 octobre, dit le duc de Cador, j'étais venu de Vienne pour travailler avec l'empereur. Après quelques moments d'entretien, il me dit « Je vais passer la revue, restez dans mon cabinet. Vous rédigerez cette note que je verrai après la revue. » Je restai dans son cabinet avec M. de Menneval, son secrétaire intime. Il rentra bientôt. « Le prince de Liechtenstein, me dit Napoléon, ne vous a-t-il pas fait connaître qu'on lui faisait souvent la proposition de m'assassiner ?»« Oui, sire, il m'a exprimé l'horreur avec laquelle il rejetait ses propositions. »« Eh bien, on vient d'en faire la tentative. Suivez-moi. » J'entrai avec lui dans le salon. Là étaient quelques personnes qui paraissaient très agitées et qui entouraient un jeune homme de 18 à 20 ans. D'une figure agréable, très douce, annonçant une sorte de candeur, et qui seul paraissait conserver un grand calme. C'était l'assassin. Il fut interrogé avec une grande douceur par Napoléon lui-même, le général Rapp servant d'interprète. Je ne rapporterai que quelques-unes de ses réponses qui me frappèrent davantage. « Pourquoi vouliez-vous m'assassiner ?» Parce qu'il n'y aura jamais de paix pour l'Allemagne tant que vous serez au monde. Qui vous a inspiré ce projet? L'amour de mon pays. Ne l'avez-vous concerté avec personne? Je l'ai trouvé dans ma conscience. Ne saviez-vous pas à quel danger vous vous exposiez? Je le savais, mais je serais heureux de mourir pour mon pays. Vous avez des principes religieux. Croyez-vous que Dieu autorise l'assassinat? J'espère que Dieu me pardonnera en faveur de mes motifs. Est-ce que dans les écoles que vous avez suivies, on enseigne cette doctrine? Un grand nombre de ceux qui les ont suivis avec moi sont animés de ces sentiments et disposés à dévouer leur vie au salut de la patrie. Que feriez-vous si je vous mettais en liberté? Je vous tuerais. La terrible naïveté de ses réponses, la froide et inébranlable résolution qu'elles annonçaient, et ce fanatisme si fort au-dessus de toutes les craintes humaines, firent sur Napoléon une impression que je jugeais d'autant plus profonde qu'il montrait plus de sang-froid. Il fit retirer tout le monde, et je restai seul avec lui. Après quelques mots sur un fanatisme aussi aveugle et aussi réfléchi, il me dit « Il faut faire la paix ». Ce récit du duc de Cador méritait d'être cité en entier. Les nations commençaient leur levée. Elles annonçaient à Bonaparte des ennemis plus puissants que les rois. La résolution d'un seul homme du peuple sauvait alors l'Autriche. Cependant, la fortune de Napoléon ne voulait pas encore tourner la tête. Le 14 août 1809, dans le palais même de l'empereur d'Autriche, il fait la paix. Cette fois, la fille des Césars est la palme remportée. Mais Joséphine avait été sacrée, et Marie-Louise ne le fut pas. Avec sa première femme, la vertu de l'onction divine sembla se retirer du triomphateur. J'aurais pu voir, dans Notre-Dame de Paris, la même cérémonie que j'ai vue dans la cathédrale de Reims. À l'exception de Napoléon, les mêmes hommes y figuraient. Un des acteurs secrets qui eut le plus de part dans la conduite intérieure de cette affaire fut mon ami Alexandre de Laborde, blessé dans les rangs des émigrés et honoré de la croix de Marie-Thérèse pour ses blessures. Le 2 mars, le prince de Neuchâtel épousa à Vienne par procuration l'archiduchesse Marie-Louise. Celle-ci partit pour la France accompagnée de la princesse Murat. Marie-Louise était parée sur la route des emblèmes de la souveraine. Elle arriva à Strasbourg le 22 mars et le 28 au château de Compiègne, où Bonaparte l'attendait. Le mariage civil eut lieu à Saint-Cloud, le 1er avril. Le 2, le cardinal Fesch donna dans le Louvre la bénédiction nuptiale aux deux époux. Bonaparte apprit à cette seconde femme à lui devenir infidèle, ainsi que l'avait été la première, en trompant lui-même son propre lit par son intimité avec Marie-Louise avant la célébration du mariage religieux. Mépris de la majesté des mœurs royales et des lois saintes, qui n'étaient pas d'un heureux augure. Tout paraît achevé. Bonaparte a obtenu la seule chose qui lui manquait. Comme Philippe Auguste s'alliant à Isabelle de Hainaut, il confond la dernière race avec la race des grands rois. Le passé se réunit à l'avenir. En arrière comme en avant, il est désormais le maître des siècles s'il se veut enfin fixé au sommet. Mais il a la puissance d'arrêter le monde et n'a pas celle de s'arrêter. Il ira jusqu'à ce qu'il ait conquis la dernière couronne qui donne du prix à toutes les autres, la couronne du malheur. L'archiduchesse Marie-Louise, le 20 mars 1811, accouche d'un fils, sanction supposée des félicités précédentes. De ce fils éclos, comme les oiseaux du pôle, au soleil de minuit, il ne restera qu'une valse triste, composée par lui-même à Schönbrunn, et jouée sur des orgues dans les rues de Paris, autour du palais de son père. Chapitre 11. Projet et préparatifs de la guerre de Russie. Embarras de Napoléon. Bonaparte ne voyait plus d'ennemis. Ne sachant où prendre des empires, faute de mieux, il avait pris le royaume de Hollande à son frère. Mais une inimitié secrète, qui remontait à l'époque de la mort du duc d'Enghien, était restée au fond du cœur de Napoléon contre Alexandre. Une rivalité de puissance l'animait. Il savait ce que la Russie pouvait faire et à quel prix il avait acheté les victoires de Friedland et d'Eylau. Les entrevues de Tilsit et d'Erfurt, des suspensions d'armes forcées, une paix que le caractère de Bonaparte ne pouvait supporter, des déclarations d'amitié, des serrements de main, des embrassades, des projets fantastiques de conquête commune, tout cela n'était que des ajournements de haine. Il restait sur le continent un pays et des capitales où Napoléon n'était point entré. un empire debout en face de l'empire français. Les deux colosses se devaient mesurer. À force d'étendre la France, Bonaparte avait rencontré les Russes, comme Trajan, en passant le Danube, avait rencontré les Goths. Un calme naturel, soutenu d'une piété sincère depuis qu'il était revenu à la religion, inclinait Alexandre à la paix. Il ne l'aurait jamais rompu si l'on était venu le chercher. Toute l'année 1811 se passa en préparatifs. La Russie invitait l'Autriche domptée et la Prusse pantelante à se réunir à elle dans le cas où elle serait attaquée. L'Angleterre arrivait avec sa bourse. L'exemple des Espagnols avait soulevé les sympathies des peuples. Déjà commençait à se former le lien de la vertu, Tugendbund, qui enserrait peu à peu la jeune Allemagne. Bonaparte négociait, il faisait des promesses, il laissait espérer au roi de Prusse la possession des provinces russes allemandes. Le roi de Saxe et l'Autriche se flattaient d'obtenir des agrandissements dans ce qui restait encore de la Pologne. Des princes de la Confédération du Rhin rêvaient des changements de territoire à leur convenance. Il n'y avait pas jusqu'à la France que Napoléon ne méditât d'élargir, quoiqu'elle débordât déjà sur l'Europe. Il prétendait l'augmenter nominativement de l'Espagne. Le général Sebastiani lui dit « Et votre frère ?» Napoléon répliqua « Qu'importe, mon frère, est-ce qu'on donne un royaume comme l'Espagne ?» Le maître disposait par un mot du royaume qui avait coûté tant de malheurs et de sacrifices à Louis XIV. Mais il ne l'a pas gardé si longtemps. Quant au peuple, jamais homme n'en a moins tenu compte et ne les a plus méprisés que Bonaparte. Il en jetait des lambeaux à la meute de rois qu'il conduisait à la chasse, le fouet à la main. Attila, dit Jornandès, menait avec lui une foule de princes tributaires qui attendaient avec crainte et tremblement un signe du maître des monarques pour exécuter ce qui leur serait ordonné. Avant de marcher en Russie avec ses alliés, l'Autriche et la Prusse, avec la Confédération du Rhin composée de rois et de princes, Napoléon avait voulu assurer ses deux flancs qui touchaient aux deux bords de l'Europe. Il négociait deux traités, l'un au midi avec Constantinople, l'autre au nord avec Stockholm. Ces traités manquèrent. Napoléon, à l'époque de son consulat, avait renoué des intelligences avec la Porte. Selim et Bonaparte avaient échangé leurs portraits. Ils entretenaient une correspondance mystérieuse. Napoléon écrivait à son compère, en date d'Ostende 3 avril 1807, « Tu t'es montré le digne descendant des Selim et des Soliman. Confie-moi tous tes besoins. Je suis assez puissant et assez intéressé à tes succès, tant par amitié que par politique, pour n'avoir rien à te refuser. » Charmante effusion de tendresse entre deux sultans causant bec à bec, comme aurait dit Saint-Simon. Selim renversé, Napoléon revient au système russe et songe à partager la Turquie avec Alexandre. Puis, bouleversé encore par un nouveau cataclysme d'idées, il se détermine à l'invasion de l'Empire moscovite. Mais ce n'est que le 21 mars 1812 qu'il demande à Mahmoud son alliance, requérant soudain de lui 100 000 Turcs au bord du Danube. Pour cette armée, il offre à la Porte la Valachie et la Moldavie. Les Russes l'avaient devancé. Leur traité était au moment de se conclure, et il fut signé le 28 mai 1812. Au nord, les événements trompèrent également Bonaparte. Les Suédois auraient pu envahir la Finlande, comme les Turcs menaçaient la Crimée. Par cette combinaison, la Russie, ayant deux guerres sur les bras, eût été dans l'impossibilité de réunir ses forces contre la France. Ce serait de la politique sur une vaste échelle, si le monde n'était aujourd'hui rapetissé au moral comme au physique par la communication des idées et des chemins de fer. Stockholm, se renfermant dans une politique nationale, s'arrangea avec Pétersbourg. Après avoir perdu en 1807 la Poméranie envahie par les Français et en 1808 la Finlande envahie par la Russie, Gustave IV avait été déposé. Gustave, loyal et fou, a augmenté le nombre des rois errants sur la terre. Et moi, je lui ai donné une lettre de recommandation pour les pères de Terre Sainte. C'est au tombeau de Jésus-Christ qu'il se faut consoler. L'oncle de Gustave fut mis en place de son neveu détrôné. Bernadotte, ayant commandé le corps d'armée française en Poméranie, s'était attiré l'estime des Suédois. Ils jetèrent les yeux sur lui. Bernadotte fut choisi pour combler le vide que laissait le prince de Holstein, Augustembourg, prince héréditaire de Suède, nouvellement élu et mort. Napoléon vit avec déplaisir l'élection de son ancien compagnon. L'inimitié de Bonaparte et de Bernadotte remontait haut. Bernadotte s'était opposé aux 18 Brumaire. Ensuite, il contribua, par des conversations animées et par l'ascendant qu'il exerçait sur les esprits, à ces brouillements qui amenèrent Moreau devant une cour de justice. Bonaparte se vengea à sa façon, en cherchant à ravaler un caractère. Après le jugement de Moreau, il fit présent à Bernadotte d'une maison, rue d'Anjou, dépouille du général condamné. Par une faiblesse alors trop commune, le beau-frère de Joseph n'osa refuser cette munificence peu honorable. Grosbois fut donné à Berthier. La fortune ayant mis le sceptre de Charles XII aux mains d'un compatriote de Henri IV, Charles-Jean se refusa à l'ambition de Napoléon. Il pensa qu'il lui était plus sûr d'avoir pour allié Alexandre, son voisin, que Napoléon, ennemi éloigné. Il se déclara neutre, conseilla la paix et se proposa pour médiateur entre la Russie et la France. Bonaparte entre en fureur. Il s'écrie « Lui, le misérable, il me donne des conseils, il veut me faire la loi. Un homme qui tient tout de ma bonté, quelle ingratitude! Je saurais bien le forcer de suivre mon impulsion souveraine. » À la suite de ces violences, Bernadotte signa, le 24 mars 1812, le traité de Pétersbourg. Ne demandez pas de quel droit Bonaparte traitait Bernadotte de misérable, oubliant qu'il ne sortait, lui, Bonaparte, ni d'une source plus élevée, ni d'une autre origine. La Révolution et les armes. Ce langage insultant n'annonçait ni la hauteur héréditaire du rang, ni la grandeur de l'âme. Bernadotte n'était point ingrat, il ne devait rien à la bonté de Bonaparte. L'empereur s'était transformé en un monarque de vieil Horace qui s'attribue tout, qui ne parle que de lui, qui croit récompenser ou punir en disant qu'il est satisfait ou mécontent. Beaucoup de siècles passés sous la couronne, une longue suite de tombeaux à Saint-Denis n'excuserait pas même ses arrogances. La fortune ramena des États-Unis et du nord de l'Europe deux généraux français sur le même champ de bataille pour faire la guerre à un homme contre lequel ils s'étaient d'abord réunis et qui les avait séparés. Soldats ou rois, nul ne songeait alors qu'il y eut crime à vouloir renverser l'oppresseur des libertés. Bernadotte triompha, Moreau succomba. Les hommes disparus jeunes sont de vigoureux voyageurs. Ils font vite une route que des hommes plus débiles achèvent à pas lents. Chapitre 12. L'empereur entreprend l'expédition de Russie. Objection. Faute de Napoléon. Ce ne fut pas faute d'avertissement que Bonaparte s'obstina à la guerre de Russie. Le duc de Frioul, le comte de Ségur, le duc de Vicence, consultés, opposèrent à cette entreprise une foule d'objections. « Il ne faut pas, » disait courageusement le dernier, entre parenthèses histoire de la grande armée, « en s'emparant du continent et même des états de la famille de son allié, accusait cet allié de manquer au système continental. Quand les armées françaises couvraient l'Europe, comment reprocher aux Russes leur armée ? Fallait-il donc se jeter par-delà tous ces peuples de l'Allemagne, dont les plaies faites par nous n'étaient point encore cicatrisées ? Les Français ne se reconnaissaient déjà plus au milieu d'une patrie qu'aucune frontière naturelle ne limitait. Qui donc défendra la véritable France abandonnée ? « Ma renommée, » répliqua l'empereur. Médée avait fourni cette réponse. Napoléon faisait descendre à lui la tragédie. Il annonçait le dessein d'organiser l'Empire en cohorte de bancs et d'arrière-bancs. Sa mémoire était une confusion de temps et de souvenirs. À l'objection des divers partis existants encore dans l'Empire, il répondait « Les royalistes redoutent plus ma perte qu'ils ne la désirent. Ce que j'ai fait de plus utile et de plus difficile a été d'arrêter le torrent révolutionnaire. Il aurait tout englouti. Vous craignez la guerre pour mes jours. Me tuer, moi, c'est impossible. Ai-je donc accompli les volontés du destin ? Je me sens poussé vers un but que je ne connais pas. Quand je l'aurai atteint, un atome suffira pour m'abattre. » C'était encore une copie. Les Vandales, en Afrique, Alaric, en Italie, disaient ne céder qu'à une impulsion surnaturelle. « Divino iussu ac perurgeri ». L'absurde et honteuse querelle avec le pape augmentant les dangers de la position de Bonaparte, le cardinal Fesch le conjurait de ne pas s'attirer à la fois l'inimitié du ciel et de la terre. Napoléon prit son oncle par la main, le mena à une fenêtre, c'était la nuit, et lui dit « Voyez-vous cette étoile ?»« Non, sire. Regardez bien. »« Sire, je ne la vois pas. » « Eh bien, moi, je la vois. » Vous aussi, disait Bonaparte à M. de Caulaincourt, vous êtes devenu russe. Souvent, assure M. de Ségur, on le voyait, Napoléon, à demi renversé sur un sofa, plongé dans une méditation profonde. Puis il en sort tout à coup comme en sursaut, convulsivement et par des exclamations. Il croit s'entendre nommer et s'écrie « Qui m'appelle ?» Alors il se lève, marche avec agitation. Quand le balafré touchait à sa catastrophe, il monta sur la terrasse du donjon du château de Blois, appelé le Perche aux Bretons. Sous un ciel d'automne, une campagne déserte s'étendant au loin, on le vit se promener à grands pas avec des mouvements furieux. Bonaparte, dans ses hésitations salutaires, dit « Rien n'est assez établi autour de moi pour une guerre aussi lointaine. Il faut la retarder de 3 ans. » Il offrait de déclarer au tsar qu'il ne contribuerait ni directement, ni indirectement au rétablissement d'un royaume de Pologne. L'ancienne et la nouvelle France ont également abandonné ce fidèle et malheureux pays. Cet abandon, entre toutes les fautes politiques commises par Bonaparte, est une des plus graves. Il a déclaré depuis cette faute que s'il n'avait pas procédé à un rétablissement hautement indiqué, c'est qu'il avait craint de déplaire à son beau-père. Bonaparte était bien homme à être retenu par des considérations de famille. L'excuse était si faible qu'elle ne le mène en la donnant qu'à maudire son mariage avec Marie-Louise. Loin d'avoir senti ce mariage de la même manière, l'empereur de Russie s'était écrié « Me voilà renvoyé au fond de mes forêts !» Bonaparte fut tout simplement aveuglé par l'antipathie qu'il avait pour la liberté des peuples. Le prince Poniatowski, lors de la première invasion de l'armée française, avait organisé des troupes polonaises. Des corps politiques s'étaient assemblés. La France maintint 2 ambassadeurs successifs à Varsovie, l'archevêque de Malines et M. Bignon. Français du Nord, les Polonais étaient braves et légers comme nous. Ils parlaient notre langue. Ils nous aimaient comme des frères. Ils se faisaient tuer pour nous avec une fidélité où respirait leur aversion de la Russie. la France les avait jadis perdus. Il lui appartenait de leur rendre la vie. Ne devait-on rien à ce peuple sauveur de la chrétienté ? Je l'ai dit à Alexandre à Vérone. Si votre majesté ne rétablit pas la Pologne, elle sera obligée de l'exterminer. Prétendre ce royaume condamné à l'oppression par sa position géographique, c'est trop accorder aux collines et aux rivières. 20 peuples entourés de leur seul courage ont gardé leur indépendance. Et l'Italie, remparée des Alpes, est tombée sous le joug de quiconque les a voulu franchir. Il serait plus juste de reconnaître une autre fatalité, savoir que les peuples belliqueux, habitants des plaines, sont condamnés à la conquête. Des plaines sont accourus les divers envahisseurs de l'Europe. Loin de favoriser la Pologne, on voulut que ses soldats prissent la cocarde nationale. Pauvre qu'elle était, on la chargeait d'entretenir une armée française de 80 000 hommes. Le grand-duché de Varsovie était promis au roi de Saxe. Si la Pologne eût été reformée en royaume, la race slave depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire reprenait son indépendance. Même dans l'abandon où Napoléon laissait les Polonais tout en se servant d'eux, il demandait qu'on les jetât en avant. Il se vantait de pouvoir seul entrer sans nous à Moscou. Proposition inopportune. Le poète armé, Bonaparte, avait reparu. Il voulait monter au Kremlin pour y chanter et pour signer un décret sur les théâtres. Quoi qu'on publie aujourd'hui à la louange de Bonaparte, ce grand démocrate, sa haine des gouvernements constitutionnels était invincible. Elle ne l'abandonna point alors même qu'il était entré dans les déserts menaçants de la Russie. Le sénateur Wybicki lui apporta jusqu'à Vilna les résolutions de la diète de Varsovie. « C'est à vous, disait-il dans son exagération sacrilège, c'est à vous qui dictez au siècle son histoire. Et en qui la force de la Providence réside, c'est à vous d'appuyer des efforts que vous devez approuver. » Il venait, lui, Wybicki, demander à Napoléon le Grand de prononcer ses seules paroles. Que le royaume de Pologne existe, et le royaume de Pologne existera. Les Polonais se dévoueront aux ordres du chef devant qui les siècles ne sont qu'un moment, et l'espace qu'un point. Napoléon répondit. Gentilshomme, député de la Confédération de Pologne, j'ai entendu avec intérêt ce que vous venez de me dire. Polonais, je penserai et j'agirai comme vous. J'aurai voté comme vous dans l'Assemblée de Varsovie. L'amour de son pays est le premier devoir de l'homme civilisé. Dans ma situation, j'ai beaucoup d'intérêts à concilier et beaucoup de devoirs à remplir. Si j'avais régné pendant le premier, le second ou le troisième partage de la Pologne, j'aurais armé mes peuples pour la défendre. J'aime votre nation. Pendant 16 ans, j'ai vu vos soldats à mes côtés dans les champs d'Italie et dans ceux de l'Espagne. J'applaudis à ce que vous avez fait. J'autorise les efforts que vous voulez faire. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour seconder vos résolutions. Je vous ai tenu le même langage dès ma première entrée en Pologne. Je dois y ajouter que j'ai garanti à l'empereur d'Autriche l'intégrité de ses domaines et que je ne puis sanctionner aucune manœuvre ou aucun mouvement qui tende à troubler la paisible possession de ce qui lui reste des provinces de la Pologne. Je récompenserai ce dévouement de vos contrées qui vous rend si intéressant et vous acquiert tant de titres à mon estime et à ma protection, par tout ce qui pourra dépendre de moi dans les circonstances. Ainsi crucifié pour le rachat des nations, la Pologne a été abandonnée. On a lâchement insulté sa passion. On lui a présenté l'éponge pleine de vinaigre lorsque sur la croix de la liberté elle a dit « J'ai soif, Scipio ». « Quand la liberté, s'écria Mickiewicz, s'assiera sur le trône du monde, elle jugera les nations. Elle dira à la France « Je t'ai appelé, tu ne m'as pas écouté. va donc à l'esclavage. Tant de sacrifices, tant de travaux, dit l'abbé de la Menay, doivent-ils être stériles? Les sacrés martyrs n'auraient-ils semé dans les champs de la patrie qu'un esclavage éternel? Qu'entendez-vous dans ces forêts? Le murmure triste des vents. Que voyez-vous passer sur ces plaines? L'oiseau voyageur qui cherche un lieu pour se reposer. Chapitre 13. Réunion à Dresde. Bonaparte passe en revue son armée et arrive au bord du Niémen. Le 9 mai 1812, Napoléon partit pour l'armée et se rendit à Dresde. C'est à Dresde qu'il rassembla les ressorts épars de la Confédération du Rhin et que, pour la première et la dernière fois, il mit en mouvement cette machine qu'il avait fabriquée. Parmi les chefs-d'œuvre exilés qui regrettent le soleil de l'Italie, a lieu une réunion de l'empereur Napoléon et de l'empératrice Marie-Louise, de l'empereur et de l'empératrice d'Autriche, d'une cohue de souverains grands et petits. Ces souverains aspirent à former de leurs diverses cours les cercles subordonnés de la cour première. Ils se disputent le vasselage. L'un veut être échanson du sous-lieutenant de Brienne, l'autre son panetier. L'histoire de Charlemagne est mise à contribution par l'érudition des chancelleries allemandes. Plus on était élevé, plus on était rampant. Une dame de Montmorency, dit Bonaparte dans Las Cases, se serait précipitée pour renouer les souliers de l'impératrice. Lorsque Bonaparte traversait le palais de Dresde pour se rendre à un gala préparé, il marchait le premier et en avant, le chapeau sur la tête. François II suivait, chapeau bas, accompagnant sa fille, l'impératrice Marie-Louise. La tourbe des princes venait pêle-mêle derrière dans un respectueux silence. L'impératrice d'Autriche manquait au cortège. Elle se disait souffrante, ne sortait de ses appartements qu'en chaise à porteur pour éviter de donner le bras à Napoléon, qu'elle détestait. Ce qui restait des sentiments nobles s'était retiré au cœur des femmes. Un seul roi, le roi de Prusse, fut d'abord tenu à l'écart. « Que me veut ce prince ? » s'écriait Bonaparte avec impatience. « N'est-ce pas assez de l'importunité de ses lettres ? Pourquoi veut-il me persécuter encore de sa présence ? Je n'ai pas besoin de lui. » Dure parole contre le malheur, prononcée la veille du malheur. Le grand crime de Frédéric Guillaume, auprès du républicain Bonaparte, était d'avoir abandonné la cause des rois. Les négociations de la cour de Berlin avec le directoire décelaient en ce prince, disait Bonaparte, une politique timide, intéressée, sans noblesse, qui sacrifiait sa dignité et la cause générale des trônes à de petits agrandissements. Quand il regardait sur une carte la Nouvelle-Prusse, il s'écriait « Se peut-il que j'aie laissé à cet homme tant de pays ?» Des trois commissaires des alliés qui le conduisirent à Fréjus, le commissaire prussien fut le seul que Bonaparte reçut mal et avec lequel il ne voulut avoir aucun rapport. On a cherché la cause secrète de cette aversion de l'empereur pour Guillaume. On l'a cru trouver dans telle et telle circonstance particulière. En parlant de la mort du duc d'Enghien, je pense avoir touché de plus près la vérité. Bonaparte attendit à Dresde les progrès des colonnes de ses armées. Marlborough, dans cette même ville, allant saluer Charles XII, aperçut sur une carte un tracé aboutissant à Moscou. Il devina que le monarque prendrait cette route et ne se mêlerait pas de la guerre de l'Occident. En n'avouant pas tout haut son projet d'invasion, Bonaparte ne pouvait néanmoins le cacher. Avec les diplomates, il mettait en avant trois griefs. L'ukase du 31 décembre 1810 prohibant certaines importations en Russie et détruisant, par cette prohibition, le système continental. La protestation d'Alexandre contre la réunion du duché d'Oldenbourg, les armements de la Russie. Si l'on était accoutumé à l'abus des mots, on s'étonnerait de voir donner pour cause légitime de guerre les règlements de douane d'un État indépendant et la violation d'un système que cet État n'a pas adopté. Quant à la réunion du duché d'Oldenbourg et aux armements de la Russie, vous venez de voir que le duc de Vicence avait osé montrer à Napoléon l'outrecuidance de ses reproches. La justice est si sacrée, elle semble si nécessaire au succès des affaires, que ceux même qui la foulent aux pieds prétendent n'agir que d'après ses principes. Cependant, le général Lauriston fut envoyé à Saint-Pétersbourg et le comte de Narbonne au quartier général d'Alexandre, messager de paroles suspectes de paix et de bon vouloir. L'abbé de Pratt avait été dépêché à la diète polonaise. Il en revint surnommant son maître Jupiter Scapin. Le comte de Narbonne rapporta qu'Alexandre, sans abattement et sans jactance, préférait la guerre à une paix honteuse. Le czar professait toujours pour Napoléon un enthousiasme naïf, mais il disait que la cause des Russes était juste et que son ambitieux ami avait tort. Cette vérité, exprimée dans les bulletins moscovites, prit l'empreinte du génie national. Bonaparte devint l'antéchrist. Napoléon quitte Dresde le 22 mai 1812. Il passe à Posen et à Thorn. Il y vit piller les Polonais par ses autres alliés. Il descend la Vistule, s'arrête à Danzig, Königsberg et Künbinen. Chemin faisant, il passe en revue ses différentes troupes. Aux vieux soldats, il parle des pyramides, de Marengo, d'Austerlitz, d'Iéna, de Friedland. Avec les jeunes gens, il s'occupe de leurs besoins, de leurs équipements, de leurs soldes, de leurs capitaines. Il jouait, dans ce moment, à la bonté.